Chapitre 8. Le peuple de la mer et la famille. Elaine ne fut pas vraiment surprise de rencontrer la première servante sur le chemin de ses appartements. Après tout, c'était leur destination à toutes les deux. Après avoir salué la fille héritière, maîtresse Harford, un dossier en cuir sous le bras, avança à ses côtés. Sûrement levée aussitôt qu'Elaine, sinon plus, elle portait pourtant une tunique impeccablement repassée, le lion blanc brodé sur la poitrine étincelant comme le givre matinal. Dès qu'ils apercevaient maîtresse Harford, les domestiques briquaient avec beaucoup plus d'enthousiasme. Sans être vraiment dure, elle faisait régner dans leur rang une discipline comparable à celle que Braille imposait aux gardes de la reine.
« Je crains de n'avoir démasqué aucun espion, madame, »
souffla Réhen Harford en réponse à la question d'Elaine.
« Mais j'ai des soupçons.
Un homme et une femme engagés durant les derniers mois de règne de feu votre mère. Ils ont quitté le palais dès qu'il a été connu que j'interrogeais tout le monde. Sans rien emporter de leurs affaires, même pas un manteau. C'est un aveu, non? Sauf s'ils avaient autre chose à se reprocher. On m'a signalé des vols, hélas. »
Elaine hocha pensivement la tête. À la fin du règne de sa mère, Nahéan et Elenia étaient beaucoup venus au palais. L'occasion d'y infiltrer des espions, bien entendu. Ces deux femmes, et beaucoup d'autres adversaires de Morgaz, à l'époque où elle luttait pour conquérir le trône, avaient bénéficié d'une amnistie, avant de trahir celle qui les avait sauvées. Elaine entendait bien ne pas commettre la même erreur. Il y aurait une amnistie, bien sûr. Toute autre démarche conduisait à la guerre civile. Mais elle prévoyait de garder à l'œil tous ceux qu'elle pardonnerait. Comme un chat qui reste prudent, avec une souris prétendant qu'elle ne s'intéresse plus au fromage.
C'était des espions, maîtresse Harford. Et il doit y en avoir d'autres. Pas seulement pour les maisons. Les sœurs du signe d'argent doivent nous en avoir envoyé.
Je ne relâcherai pas ma surveillance, madame.
Réhen s'inclina. Dans son ton, il n'y avait pas une once d'ironie. Pourtant, Elaine eut une nouvelle fois l'impression d'avoir enfoncé une porte ouverte. Si Birgit avait pu être aussi efficace que la première servante...
« Vous avez bien fait de rentrer plus tôt que prévu, madame. Votre après-midi menace d'être chargé. Pour commencer, Maître Norrie veut vous parler. D'un problème urgent, a-t-il dit. »
Maîtresse Harford fit la moue. En principe, elle exigeait de savoir pourquoi les gens désiraient une audience. Une manière de filtrer les casse-pieds. Plus nombreux que des pâquerettes dans une prairie au printemps. Hélas, le premier clerc ne l'entendait pas de cette oreille. En d'autres termes, il était aussi discret que Réhen et aussi jaloux de ses prérogatives.
« Après, vous aurez une délégation de marchands de tabac, puis des représentants de tisserands. Tous veulent des allègements d'impôts, sous prétexte que les temps sont difficiles. Vous n'avez sûrement pas besoin de mon opinion pour leur dire qu'ils le sont pour tout le monde. » Des négociants étrangers veulent également vous voir, pour vous assurer de leur soutien, certes, mais sans trop se mouiller. Je vous suggère de leur accorder très peu de temps. »
La première servante tapota le dossier glissé sous son bras.
« Avant d'être soumis à Maître Norrie, les comptes du palais doivent être revêtus de votre signature. Le pauvre homme en transpira à grosses gouttes, j'en ai peur. C'est étonnant en hiver, mais la farine est pleine de cancrelats. Et la moitié de nos réserves de jambon cru et de poisson fumé sont pourries. »
Un compte-rendu respectueux, mais ferme.
« Je dirige le royaume, »
avait un jour soufflé Morgaz.
« Mais souvent, j'ai l'impression que Réhen Harford me supervise. »
Une boutade? Pas tant que ça, en réalité. Tout bien réfléchi, comme championne, Réhen aurait été 10 fois pire que Birgit. Elaine n'avait aucune envie de recevoir Alwyn Norrie ou des négociants. Au calme, elle entendait réfléchir aux problèmes liés à l'espionnage et à l'enlèvement de Nahéan et Elenia. Cette affaire-là, surtout, la tracassait. Certes, mais... Eh bien, depuis la mort de sa mère, Norrie tenait Kemlyn à bout de bras. À dire vrai, si on en croyait les vieux livres de contes, il jouait ce rôle depuis que Morgaz était tombé entre les griffes de Ravine. Sur ces événements, Norrie restait très vague. Comme s'il s'en offusquait, sans vouloir le clamer sur tous les toits. Impossible de les conduire comme n'importe quel fâcheux. De plus, c'était la première fois qu'il mentionnait une urgence. Quant aux négociants, eh bien, s'il faisait montre de bonne volonté, les rembarrés n'auraient pas été très politiques. Les comtes, eux, imploraient qu'on les signe. Des cancrelats en hiver? le jambon pourri. Comme c'était étrange.
Les deux femmes atteignirent la porte des appartements d'Elaine.
Sur les battants, les lions étaient beaucoup plus petits que ceux de Morgaz, et les lieux eux-mêmes n'avaient rien à voir avec ces anciens quartiers. Pourtant, Elaine n'envisageait pas de s'y installer. À dire vrai, ça aurait été aussi présomptueux que de s'asseoir sur le trône du lion avant d'avoir ceint la couronne de rose. Avec un soupir, la fille héritière s'empara du dossier de cuir. Au bout du couloir, elle aperçut Soleil Morgaylin et Kerei sur Tovni.
Marchant aussi vite que possible quand on ne voulait pas avoir l'air de courir, les deux membres de la famille flanquaient une femme à l'air maussade qui portait, contre son gré, une écharpe de soie verte pour dissimuler la chaîne de son Adam. Une précaution insuffisante, puisqu'on apercevait des reflets d'argent autour de son cou. Bien entendu, ce détail ne passerait pas inaperçu et ferait causer dans les chaumières. Il aurait été préférable que ces femmes n'aient pas été déplacées, mais comment faire? Avec l'arrivée massive de régentes des vents et de membres de la famille, il avait fallu réquisitionner des chambres dans le quartier des domestiques, à deux ou trois personnes par lit, et les sous-sols du palais servaient d'entrepôt, pas de prison. Comment Rand faisait-il à se tromper systématiquement? Être un homme n'excusait pas tout. Soleil, Kerei et leurs prisonnières s'engouffrèrent dans un corridor latéral.
« Maîtresse Corly voudrait vous voir ce matin, madame, »
annonça Réhenne d'un ton neutre. Elle surveillait aussi la famille, et son front légèrement plissé en disait long sur ce qu'elle en pensait. Le peuple de la mer était bizarre, certes, mais une maîtresse des vagues responsable d'un clan et son entourage entrait dans sa vision du monde, même si elle ignorait ce que pouvait bien être un clan pour ces gens-là, sans parler d'une maîtresse des vagues. Après tout, un dignitaire étranger de haut rang restait un dignitaire, et les étrangers avaient pour vocation d'être bizarres. En revanche, comment comprendre qu'Hélène ait offert l'hospitalité à près de 150 négociantes et artisanes? Des noms comme la famille ou le cercle du tricot ne lui auraient rien dit, même si elle les avait entendus, et la tension qui existait entre ses invités et les Aes Sedai lui passait largement au-dessus de la tête. Et que pensaient de ces femmes amenées par les Achamans et qu'on gardait prisonnières, même si on ne les confinait pas dans des cellules. Recluse, elle n'avait le droit de parler à personne, à part aux geôlières qui les escortaient dans les couloirs. En bonne première servante, Réhenne Harfor savait quand il convenait de ne pas poser de questions. Cela dit, elle détestait ignorer ce qui se mijotait dans son palais.
« Maîtresse Corly prétend avoir de bonnes nouvelles pour vous. » « En un sens », a-t-elle précisé. « Cela dit, elle n'a pas demandé d'audience. »
Entendre de bonnes nouvelles était toujours mieux que de plancher sur des comptes. D'autant plus quand on avait sa petite idée et ses espoirs au sujet des nouvelles en question. Rendant le dossier à la première servante, Elaine lâcha.
« Laissez-le sur mon bureau, je vous prie. Et dites à Maître Nori que je le verrai très bientôt. »
Elaine partit dans la direction qu'avaient prise les femmes de la famille. Malgré sa jupe, elle pressa le pas. Bonne nouvelle ou pas, elle devrait recevoir Nori et tous les autres. Quant au comte, si elle ne les signait pas, le premier clerc finirait par périr de désespoir. Gouverner, ça revenait à d'interminables semaines de corvée et à de rares heures de liberté. Très rares. Boule d'agacement et d'outrage, Birgit était tapie dans un coin de la tête d'Elaine. Sans nul doute possible, elle était plongée dans des paperasses. Eh bien, tant pis pour elle. Aujourd'hui, en guise de détente, la fille héritière aurait un repas pris sur le pouce et les quelques minutes requises pour se changer. Perdue dans ses pensées, elle fonça, sans prêter attention à ce qui se trouvait devant elle. Une urgence, Nori? À coup sûr, ça ne devait pas concerner la voirie. Combien d'espions? Maîtresse Harfor avait très peu de chances de les coincer tous. Alors qu'elle tournait à une intersection, Elaine capta la présence de femmes capables de canaliser. S'arrêtant net, elle réussit à ne pas percuter Vandaine de plein fouet. Plongée dans ses propres pensées, la sœur verte ne regardait pas davantage qu'elle où elle mettait les pieds. Apercevant ses deux compagnes, Elaine fronça les sourcils. Vêtue de blanc, les mains sagement croisées, Kirstian et Zarya se tenaient un pas derrière Vandaine. Coiffée très simplement, elle ne portait pas de bijoux, une sobriété fortement recommandée aux novices. Naguère membre de la famille, Kirstian appartenait même au cercle du tricot, elle restait des fugitives de la Tour Blanche, et les lois étaient très claires à ce sujet, même quand la fuite remontait à très longtemps. Ses repenties devaient être en tout point parfaites, incarnation même de l'initié prêt à tout pour obtenir le châle. Chez elle, des défauts mineurs qu'on eut à peine remarqués chez d'autres étaient punis sévèrement. Le jour de leur arrivée à la tour, on les flagellait en public. Ensuite, on leur serrait la vis pendant au moins un an. Grâce à ce régime, une fugitive comprenait au plus profond de son âme qu'elle ne devrait plus jamais s'enfuir. Plus jamais. Les femmes à demi formées étaient beaucoup trop dangereuses pour qu'on les laisse batifoler dans la nature. Au début, dans les rares occasions où elle en rencontrait, Elaine avait tenté d'être indulgente avec ses femmes. Au sens strict du terme, les membres de la famille n'étaient pas vraiment à demi formés. En matière d'expérience du pouvoir de l'unique, elle valait bien des Aes Sedai. Cette clémence, avait vite découvert Elaine, déplaisait aux femmes de la famille qu'on ne reprenait pas à la tour. Et celles qui avaient une seconde chance de devenir des Aes Sedai adhéraient à toutes les lois avec une incroyable ferveur. Choquante, pour dire la vérité. La fille héritière ne s'étonna donc pas de la docilité de Kirstian et de Zarya. Mais que fichait-elle avec Vanden? Jusque-là, elle les avait superbement dédaignés.
« Je te cherchais, Elaine, »
dit la sœur verte sans préambule. Malgré ses joues lisses, ses cheveux blancs noués sur la nuque par un ruban vert foncé, la vieillissait depuis très longtemps. L'assassinat de sa sœur l'ayant encore endurcie, elle ressemblait à un juge implacable. Mince avant le drame, elle était à présent squelettique.
« Ses enfants !»
Elle s'interrompit, dubitative. Le terme était approprié pour désigner des novices. Pour une femme venue à la tour, la pire expérience n'était pas de découvrir qu'on la tiendrait pour une gamine tant qu'elle n'aurait pas son châle. Non, l'horreur absolue, c'était de comprendre qu'elle resterait bel et bien une gosse tant qu'elle porterait la robe blanche. Une fillette ignorante, risquant de se blesser ou de faire mal aux autres. Le terme approprié, oui, mais dans le cas présent, ça semblait vraiment bizarre, même aux yeux de Vanden. En moyenne, les novices arrivaient à la tour à 16 ans. Et jusqu'à ces derniers temps, elle n'avait jamais plus de 18 printemps, sauf quelques menteuses qu'on démasquait rapidement. Contrairement aux Aes Sedai, la famille fondait sa hiérarchie sur l'âge. Même si elle s'était fait appeler Garenyar au Soinde, Zarya était inscrite sous le nom d'Alkaese dans le registre des novices, et désormais, elle se nommerait ainsi. À part ça, avec son large nez et sa grande bouche, elle avait la bagatelle de 90 ans, même si elle en paraissait le quart. Malgré leur longue expérience du pouvoir, ces femmes n'avaient pas le visage sans âge des Aes Sedai. Cela dit, alors qu'elle semblait avoir 30 ans, la jolie Kirstian aux yeux noirs, les 300 ans dépassés, était l'aînée de Vanden. Son départ de la tour remontant à des lustres, elle avait cru sans danger d'utiliser en partie son vrai nom. Aucun rapport avec les novices fugueuses habituelles.
« Ses enfants, »
reprit Vanden, sourcils foncés.
« On repensait aux événements de Pont Arlon. »
L'endroit où la sœur de Vanden était morte. En même temps qu'Ispan Sheffar, mais pour l'Aes Sedai verte, la disparition d'une sœur noire comptait aussi peu que celle d'un chien enragé.
« Hélas, au lieu de garder leur conclusion pour elles, ces enfants sont venus me voir. Au moins, elles n'ont pas babillé en public. »
Elaine tiqua un peu. Au palais, tout le monde était au courant du double assassinat.
« Je ne comprends pas, »
admit-elle. Il allait falloir être prudente, histoire de ne pas donner d'indices à Zarya et Kirstian, si elles n'avaient rien découvert d'important.
« Ont-elles compris que les coupables étaient des suppôts et pas des voleurs ?»
La fable officielle. Deux femmes tuées pour leurs bijoux dans une maison isolée. Elaine, Vanden, Nineveh et Lan étaient les seules à savoir la vérité, en partie en tout cas. Et jusqu'à présent, semblait-il. Kirstian et Zarya devaient en être arrivés là, sinon Vanden les aurait fait détaler en leur bottant les fesses.
Pire que ça.
Vanden regarda autour d'elle, puis elle se plaça au centre de l'intersection, forçant Elaine à la suivre. De là, on pouvait sonder tous les couloirs en même temps. Les deux novices ne bougèrent pas. Au fond, elle s'était peut-être déjà fait botter les fesses. Des serviteurs allaient et venaient, mais tous trop loin pour entendre ce qui se disait. Vanden baissa quand même le ton, une précaution qui n'empêcha pas sa voix de vibrer d'indignation.
« Elles ont déduit que l'assassin devait être Merylil, Sarita ou Karian. Ce n'est pas si mal réfléchi que ça. N'était qu'elles auraient dû s'abstenir de réfléchir à ce sujet. S'ils avaient étudié comme il le faut, le temps de penser à ça leur aurait manqué. »
Même si Vanden les foudroya du regard, les deux novices rayonnèrent. À juste titre, car il y avait un compliment implicite dans le courroux de la sœur verte. Elaine ne fit pas remarquer que les deux femmes auraient été encore plus occupées si Vanden avait consenti à les former. Comme Ninévée, la fille héritière avait d'autres occupations, et comme il fallait en plus former les régentes des vents, eh bien, les deux novices en pâtissaient, il fallait l'admettre. Mais enseigner aux hâtes à admirer était... Passer dans une essoreuse au lavoir devait être moins pénible. Ces femmes ne respectaient pas les Aes Sedai, et elles se contrefichaient de la hiérarchie en vigueur sur le plancher des vaches.
Au moins, elles n'ont parlé qu'à toi.
Une mince consolation. Lors de la découverte des corps d'Adeleas et Hispan, il avait semblé évident qu'une Aes Sedai les avait tués. Avant de les exécuter, on les avait drogués avec de la racine d'épines pourpres, et aucune Ata admirée ne pouvait connaître cette herbe qu'on trouvait uniquement très à l'intérieur des terres. En outre, Vanden elle-même assurait qu'il n'y avait pas de suppôt des ténèbres parmi les membres de la famille. Durant son noviciat, Hispan avait elle aussi fugué, allant même jusqu'à Eboudar. Mais on l'avait reprise avant que la famille se soit dévoilée à elle, lui révélant qu'il y avait plus derrière tout ça que quelques transfuges de la tour résolus à l'aider. Interrogée par Vanden et Adeleas, la sœur noire s'était montrée très loquace. À part quelques vieux complots depuis longtemps éventés, elle n'avait rien révélé sur la jeune noire. En revanche, sous les mains expertes de deux sœurs, elle s'était retrouvée pressée comme un citron. Résultat, elle n'en savait pas plus long sur la famille que n'importe quelle autre Aes Sedai. Or, s'il y avait eu des suppôts, parmi les tricoteuses, l'Aja en aurait été informée. Du coup, que ce soit agréable ou non, il fallait se rendre à l'évidence. La meurtrière était une des trois femmes qu'elles avaient appris à aimer. Une sœur noire parmi elles. Ou peut-être plus. Une information à garder secrète, au moins jusqu'à ce qu'on ait démasqué la coupable. Sinon, cette histoire aurait semé la panique au palais, voire dans toute la ville. Mais qui d'autre avait réfléchi au drame de Pont Arlon? Et toutes les enquêtrices amateurs auraient-elles le bon sens de se taire?
Ces enfants doivent être pris en main, dit Vanden, afin qu'elles ne commettent plus de forfaits. Il faut qu'elles travaillent dur.
Les deux novices se rembrunirent. Si les leçons étaient rares, elles trimaient déjà comme des bœufs et se voyaient imposer une discipline de fer.
Tu dois t'en charger, Elaine, ou à défaut, Ninévée.
Vanden, je n'ai déjà pas une minute à moi. Leur donner une leçon de temps en temps est déjà un exploit. Ça devrait être Ninévée.
Qu'est-ce qu'on lui veut encore à Ninévée ?
Lança joyeusement l'ancienne sage-dame en approchant. La lumière seule savait comment. Elle s'était procuré un châle à franges jaunes orné de motifs floraux. Pour l'heure, il était simplement drapé sur ses bras. Malgré les frimas, elle portait une robe bleue très décolletée, selon les standards andoriens. Mais sa natte limitait pudiquement la vue plongeante sur sa poitrine. Le kisaïn, un petit point rouge qu'elle arborait au milieu de son front, lui donnait l'air assez étrange. Selon les coutumes du Malkier, cet ornement signalait une femme mariée. Dès qu'elle l'avait su, Ninévée avait insisté pour en porter un. Jouant distraitement avec le bout de sa natte, elle semblait satisfaite. Un sentiment qu'on n'associait pas nécessairement à Ninévée Almehara. Elaine comprit mieux pourquoi lorsqu'elle vit l'âne, un peu en retrait, occupée à surveiller tous les couloirs en même temps. Aussi grand qu'un aïel, des épaules de forgeron sous sa veste verte, le champion au visage de marbre était aussi furtif qu'un fantôme. Même au palais, il ne se séparait jamais de son épée. Ce guerrier au regard d'acier glaçait les sangs de la fille héritière. Sauf quand il regarda Ninévée, cependant. Toute satisfaction déserta la jeune femme quand elle apprit ce qu'on attendait d'elle. Cessant de jouer avec sa natte, elle la prit à pleine main.
« Écoutez-moi bien !»
grogna-t-elle.
Elaine a peut-être le temps de faire joujou avec la politique, mais moi, je n'ai pas une seconde de libre.
plus de la moitié des femmes de la famille se seraient éclipsées si Alice ne les retenait pas par la peau du cou. Comme elle n'a aucune chance d'obtenir le châle, j'ignore jusqu'à quand elle consentira à jouer ce rôle. Les autres croient pouvoir me tenir la dragée haute. Hier, Sumeko m'a traité de gamine.
Ninevé eut un rictus, mais tout ça, qu'elle le veuille ou non, était sa faute. Qui avait répété aux tricoteuses qu'elles ne devaient pas ramper comme des larves devant les Aes Sedai? Eh bien, le message était passé. Depuis, ces femmes se permettaient de juger les sœurs à l'aune de leurs propres critères. Et elles ne les trouvaient pas sans défaut. Si elles semblaient avoir à peine 20 ans, Ninevé n'y pouvait rien, car elle avait très tôt cessé de vieillir. Mais pour la famille, l'âge était un élément central, et elle passait beaucoup de temps avec ses membres. De plus en plus insatisfaite, elle tira sur sa natte, assez fort pour l'arracher.
« Et ces fichus à t'admirer! Des maudites mégères, oui! S'il n'y avait pas ce pacte de malheur, t'es chépi! Du coup, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir en plus 2 satanés novices sur les bras. »
Kirstian eut une moue navrée, et de l'indignation passa un instant dans le regard de Zarya. Tant bien que mal, les 2 novices se reprirent pourtant. Quand on portait la robe blanche, elle le savait, pas question de s'opposer à une Aes Sedai. Elaine résista à une envie brûlante d'intervenir. Si elle s'était écoutée, elle aurait giflé Kirstian et Zarya, 2 crétines incapables de la boucler. Et elle aurait infligé le même sort à Ninevé, qui s'était fait piéger par les régentes des vents. Une bévue de taille, et qui n'inspirait aucune sympathie à la fille héritière.
« Je ne fais pas joujou, Ninevé. Et tu le sais très bien, ne serait-ce que parce que je t'ai souvent demandé ton avis. »
Elaine inspira à fond pour se calmer. Les domestiques qu'elle apercevait derrière Vandaine et les 2 novices avaient cessé de travailler pour observer le petit groupe de femmes, sûrement pas l'âne, qu'ils avaient sans doute à peine remarqué, tout imposant qu'il était. Quand des Aes Sedai se disputaient, il fallait ouvrir grand les yeux et les oreilles, et en rester le plus loin possible.
« Quelqu'un doit s'occuper de ces novices !»
insista Elaine.
« Tu crois qu'on peut simplement leur dire d'oublier tout ça ? Si on leur laisse la bride sur le cou, elles reprendront leur enquête. D'après toi, pourquoi sont-elles venues parler à Vandaine ? Parce qu'elles espéraient qu'elles les laisseraient participer aux investigations ?»
Kirstian et Zarya devinrent soudain l'incarnation de l'innocence faite novice, avec une pointe d'indignation à l'idée qu'on puisse les soupçonner de tels calculs. Elaine ne tomba pas dans le panneau. Ces femmes avaient eu une très longue vie pour apprendre à berner leur monde.
« Et pourquoi pas, après tout ?»
répliqua Ninevé.
« Ne perds pas de vue que ce ne sont pas des novices aussi nunuches que les autres. »«
Aussi nunuches que les autres. » Outrée, Elaine voulut riposter. Si elle avait sauté le noviciat, Ninevé avait bel et bien été une acceptée. Du genre pleurnichard, en plus de tout. Déchaînée, l'épouse de l'âne ne laissa pas à Elaine le temps d'en placer une.
Vandaine peut tirer parti de ses 2 filles. Et quand elles ne travailleront pas sous ses ordres, elle leur donnera des cours. Je crois savoir que tu as déjà formé des novices, Vandaine. Voilà, le débat est clos.
Les 2 novices ne se frottèrent pas les mains, mais elles n'en furent pas loin. Vandaine, elle, encaissa mal le coup.
Je n'ai pas besoin d'avoir des novices dans les jambes quand je... Tu es aussi aveugle qu'Elaine,
coupa Ninevé.
Elles sont assez expérimentées pour abuser des Aes Sedai. Pendant qu'elles œuvreront pour toi, tu en profiteras pour manger et dormir. 2 activités que tu ne sembles plus pratiquer.
Ninevé se redressa de toute sa hauteur, ce qui n'allait pas bien loin. À peine aussi grande que Zarya, que Vandaine et Kirstian dominaient très largement, elle réussit à passer pour une géante, les regardant toutes de haut. Un truc qu'Elaine aurait bien voulu contrôler, même si elle ne se serait pas risquée à l'utiliser en portant une robe si décolletée. Et il risquait d'y avoir des débordements. Une éventualité qui ne tarnissait en rien l'aura d'autorité de l'ancienne sage-dame.
« Tu vas le faire, Vandaine !»
dit-elle, intraitable. L'indignation de Vandaine mit du temps à se dissiper, mais elle finit par disparaître. Ninevé était plus puissante qu'elle dans le pouvoir. Même si elle n'y pensait jamais consciemment, des traditions ancestrales l'incitaient à baisser pavillon. Quand elle se tourna vers les 2 novices, plus rien ne se lisait sur son visage. Comme depuis la mort de sa sœur chérie. Sûrement pas une raison de croire que la juge ne prononcerait pas plus tard une double sentence de mort.
« C'est vrai, j'ai enseigné, mais pas très longtemps. La maîtresse des novices me trouvait trop dure avec ses petites chéries. »
Soudain, Kirstian et Zarya rayonnèrent beaucoup moins.
En ce temps-là, c'était Sereï Bagand.
Zarya blêmit, et Kirstian tituba comme s'elle avait le tournis. D'abord maîtresse des novices, puis chère d'Amerlin, Sereï était une légende. Du genre qui vous fait émerger du sommeil en sursaut, le front lustré de sueur.
Pour ta gouverne, Nineveh, sache que je mange. Mais tout ce que j'avale me semble avoir un goût de cendre.
D'un geste, Vanden ordonna aux deux novices de la suivre. Puis elle s'éloigna, deux femmes en blanc terrorisées sur les talons.
« Tête de mule !»
marmonna Nineveh, non sans une once de sympathie dans la voix.
« Je pourrais lui donner une dizaine de décoctions qui l'endormiraient. Mais elle refuse obstinément.
Un de ces soirs, je verserai quelque chose dans son vin.
« Une reine avisée, »
songea Elaine.
« Sait quand elle doit parler ou se taire. »
Un des piliers de la sagesse pour n'importe qui. Tête de mule dans la bouche de Nineveh, c'était la pitié se moquant de la charité.
« Tu connais les nouvelles de Réan ?»
demanda Elaine, pour changer de sujet.
« Il paraît qu'elles sont bonnes.
Je ne l'ai pas vue ce matin, »
répondit Nineveh, le regard toujours rivé sur le dos de Vanden.
« C'est normal, puisque je ne suis pas sorti de mes appartements. »
Apparemment sans raison, l'ancienne sage-dame sursauta, jeta un regard soupçonneux à Elaine, puis fit de même avec l'âne, qui ne broncha pas plus que d'habitude. Au sujet de son mariage, qu'elle affirmait fabuleux, Nineveh, avec les autres femmes, se montrait d'une franchise souvent choquante. Des mensonges visant à masquer sa déception, selon Elaine. Même en dormant, l'âne devait être sur ses gardes, prêt à riposter à n'importe quelle attaque. Près de lui, on devait se sentir à côté d'un lion affamé. Et avec ce visage de marbre, la joie ne devait pas être souvent au rendez-vous dans le lit conjugal. Par bonheur, Nineveh ne pouvait pas deviner à quoi pensait la fille héritière. Pourtant, elle eut un sourire condescendant. Comme pour dire « cause toujours ». Non, c'était impossible.
« Je sais où est Réan. Suis-moi, Elaine, je te conduis. »
La fille héritière savait très exactement où était Réan, puisqu'elle n'était pas restée enfermée avec Nineveh. Mais elle s'imposa de nouveau le silence et se laissa guider. Une punition pour avoir jeté de l'huile sur le feu un peu plus tôt, au lieu d'arrondir les angles. Sans cesser de sonder les couloirs, l'âne suivit le mouvement. Quand son regard passait sur eux, les domestiques tressaillaient. Une très jeune fille remonta même sa jupe pour détaler à la vitesse du vent. Dans sa course éperdue, elle renversa une lampe. Cet incident rappela à Elaine qu'elle devrait parler à Nineveh d'Elenia, de Nahéan et des espions. L'ancienne sage-dame écouta calmement et trouva également qu'on saurait bien assez tôt qui avait enlevé les deux femmes. Comme c'était prévisible, elle exprima un profond mépris pour les doutes de Sareïta et se déclara surprise qu'on n'ait pas tenté plus tôt d'exfiltrer Elenia et Nahéan d'Aringil.
Quand nous sommes arrivés à Kemlin, j'ai eu du mal à croire qu'elles y étaient encore. N'importe quel crétin pouvait comprendre qu'on les transférait ici un jour. Il était plus facile de les faire sortir d'une petite ville.
Une petite ville, Aringil ? Dans un passé pas si lointain, Elaine l'aurait qualifié de mégalopole.
Quant aux espions...
Nineveh lorgna soupçonneusement un serviteur occupé à remplir le réservoir d'une lampe.
Bien sûr qu'il y en a, Elaine. Depuis le début, je sais qu'il en sera ainsi. Tu devras juste tenir ta langue. Quand tu ne veux pas qu'une chose s'ébruite, ne la dis pas devant quelqu'un que tu ne connais pas très bien.
Quand parler ou se taire ?
Pensa Elaine. Parfois, avec Nineveh, ça tenait du calvaire. L'ancienne sage-dame avait ses propres informations à transmettre. Parmi les femmes de la famille qui l'avaient accompagnée jusqu'à Kemlin, 18 n'étaient plus au palais, sans s'être enfuies cependant. Comme elle n'était pas assez puissante pour voyager, Nineveh leur avait ouvert des portails donnant sur l'Altara, la Madicia et le Tarabon. Des pays occupés par les Séanchaniens, où elle tenterait de retrouver des tricoteuses, puis de les ramener à Kemlin. Elaine aurait apprécié qu'on songe à l'informer plus tôt, par exemple, quand Réan et Nineveh avaient pris cette décision, mais elle omit de le mentionner.
« C'est courageux, »
dit-elle simplement.
« Ne pas être capturé sera difficile. »«
Des héroïnes, oui, »
fit Nineveh agacée. Elle tira de nouveau sur sa natte.
« Mais nous n'avons pas sélectionné ces femmes pour leur bravoure. Alice estimait qu'elles risquaient de filer si on ne leur confiait pas une mission. »
Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle lâcha sa natte.
« Je ne vois pas comment Egwene compte s'y prendre, »
soupira-t-elle.
Associer toutes les femmes de la famille à la tour. Ce sont de belles paroles, mais après, la plupart ne sont pas assez puissantes pour porter le châle, voire pour atteindre le statut d'accepté. Et elles refuseront certainement de rester novices jusqu'à la fin de leur jour.
Cette fois, si Elaine se tut, ce fut faute d'avoir quelque chose à dire. La promesse devait être tenue, d'autant plus qu'elle l'avait faite en personne, au nom d'Egwen et sur son ordre. Mais les mots étaient sortis de sa bouche. Résolue à tenir parole, elle ne savait pas comment faire. Sauf si Egwen trouvait une idée vraiment géniale. Rhéan Corly était exactement là où Elaine le pensait, dans une petite pièce, dotée de deux fenêtres étroites donnant sur une cour intérieure du palais. En hiver, la fontaine était à sec, bien entendu. Dans ce bureau meublé d'une simple table et de deux chaises, deux personnes tenaient compagnie à Rhéan. Vêtue d'une robe grise à col montant, Alice Tengile se tenait à un bout de la table. D'âge moyen, elle avait un physique plaisant, mais plutôt banal. Une femme qu'on ne remarquait pas, sauf quand on la connaissait bien. Alors, on savait qu'elle pouvait se montrer très déplaisante en cas d'urgence. Levant à peine la tête, elle retourna à ses occupations. Les Aes Sedai, les champions et même la fille héritière ne l'impressionnaient pas le moins du monde. Assise sur un coin de table, Rhéan, aux cheveux grisonnants et au visage ridé, portait une robe verte plus raffinée que celle d'Alise. Éjectée de la tour après avoir raté l'épreuve d'accepter, elle se réjouissait d'avoir une seconde chance et arborait la couleur de son ajat d'élection. En face d'elle, une femme rondelette en robe de laine marron, l'air méfiante, la regardait fixement, évitant de poser les yeux sur la dame d'argent qui gisait sur la table tel un serpent mort. Les mains de la femme caressaient le rebord de la table, et Rhéan affichait un sourire confiant qui accentuait les ridules de ses yeux.
« Ne me dis pas que tu en as ramené une à la raison !»
finit Névé, avant même que l'âne ait refermé la porte. Elle foudroya du regard la femme en laine marron, puis jeta un coup d'œil à Élise. Selon Elaine, Ninévé était impressionnée par cette femme. Bien moins puissante qu'elle dans le pouvoir, certes, jamais elle ne porterait le châle, mais dotée d'une aura d'autorité que tout le monde respectait, y compris les Aes Sedai. En toute honnêteté, Elaine ne faisait pas exception à cette règle.
« Elle prétend toujours être incapable de canaliser, »
marmonna Alise, les bras croisés sur le torse. Agacée, elle foudroya du regard la femme en marron.
« En réalité, elles ne le peuvent pas, je suppose, mais… eh bien, je sens quelque chose. Pas l'étincelle d'une femme née pour le pouvoir, mais presque. On dirait qu'elle est à un souffle de canaliser, et qu'elle ne parvient pas à franchir le pas. Je n'ai jamais rien senti de pareil. Au moins, ces femmes n'essaient plus de nous bourrer à coups de poing. »
La femme en marron jeta un regard hostile à Alise. Celle-ci ne bronchant pas, l'inconnue n'insista pas. Quand Alise dressait une personne, ce n'était pas de la rigolade. Sans y penser, la femme continua à lisser le bois de la table.
« Elles affirment ne pas voir les flux. Mais je crois surtout qu'elles essaient de se convaincre elles-mêmes. »
Une intervention de Rhéan, faite avec sa voix musicale habituelle, et sans cesser de soutenir le regard de la femme en marron. N'importe quelle sœur aurait pu envier la présence de Rhéan et sa sérénité. Doyenne du Cercle du Tricot, le conseil suprême de la famille, c'était une femme d'exception. Selon le règlement de la famille, le cercle existait exclusivement à Eboudar. Rhéan restait cependant la plus âgée des femmes présentes à Kaemlyn, 100 ans de plus que la Aes Sedai la plus vieille de l'histoire, et elle était capable d'en remontrer à toutes, en matière d'autorité et de confiance en soi.
« Selon elle, nous les avons piégées avec le pouvoir, leur faisant croire qu'un Adam peut les retenir prisonnières. Un jour ou l'autre, elles seront à court d'affabulation. »
Rhéan tira le collier d'argent vers elle et l'ouvrit d'un geste vif.
« On essaie de nouveau, Marly ?»
La femme en marron, Marly donc, ne regarda toujours pas la dame. Mais elle tressaillit et ses mains tremblèrent un peu. Elaine soupira à Pierre Fendre. Quel cadeau Rand lui avait-il envoyé? Un présent, ça? 29 Souldam Seanchanien capables de contrôler un Adam et 5 Daman. Daman. Quel nom détestable. Signifiant « enchaîné » ou « en laisse », il disait exactement ce qu'il voulait dire. 5 Daman, oui. Et impossible de leur retirer le collier, puisqu'elles se seraient empressées de courir au secours des Sanchaniennes qui les avaient réduites en esclavage. Des léopards attachés par une longe auraient été préférables. Au moins, eux ne pouvaient pas canaliser. Personne d'autre n'ayant le temps de s'en occuper, ces cadeaux avaient été confiés aux bons soins de la famille. Elaine avait tout de suite su ce qu'il fallait faire des Souldames, les convaincre qu'elles pouvaient apprendre à canaliser et les renvoyer aux Sanchaniens. À part Nineveh, seuls Egwene, Avienda et quelques membres de la famille connaissaient ce plan. Nineveh et Egwene ne cachaient pas leurs doutes. Pourtant, une fois de retour chez elles, même si les Souldames s'efforçaient de cacher ce qu'elles étaient en réalité, l'une ou l'autre finirait par vendre la mèche, si elles ne clamaient pas la vérité haut et fort en arrivant. Les Sehanchaniens étaient vraiment à part. Parmi les Daman, les Sehanchaniennes elles-mêmes pensaient sincèrement qu'une femme capable de canaliser devait porter un collier, pour la sécurité de tous ceux qui l'entouraient. Aptes à contrôler les porteuses d'Adam, les Souldames étaient très respectées dans la société Sehanchanienne. Savoir qu'elles étaient elles aussi capables de canaliser ébranlerait les fondements même d'une civilisation, voire la mettrait à bas. Au début, ce plan avait paru d'une limpide simplicité.
Réam, tu as de bonnes nouvelles, ai-je cru comprendre. Si ce n'est pas au sujet des Souldames, de quoi s'agit-il?
Alice jeta un regard appuyé à l'âne, campé devant la porte pour monter la garde. Elle n'était pas d'accord pour qu'ils connaissent leur plan, mais elle préféra le garder pour elle.
Un instant, je t'en prie,
souffla Réam. Malgré la formulation courtoise, c'était un ordre, pas une requête. Nineveh avait trop bien fait son travail.
Inutile que cette femme entende.
L'aura du Saïdar l'enveloppant, Réan généra des flux d'air qui lièrent Marly à sa chaise, puis elle tissa un dôme de silence qui isolerait la Souldame de tous les sons. Bouger les mains pour canaliser n'était pas obligatoire, sauf pour la tricoteuse, parce qu'elle avait appris à procéder comme ça. Marly eut une moue dédaigneuse. Le pouvoir de l'unique ne l'intimidait pas.
« Prends ton temps, »
maugréa Nineveh, les poings sur les hanches.
« Personne n'est pressé. »
Réan l'impressionnait beaucoup moins qu'Alise. À l'évidence, Réan ne tremblait pas non plus de terreur face à l'ancienne sage-dame. Du coup, elle prit effectivement tout son temps, puis admira son œuvre avant de se lever avec une lenteur calculée. Dans la famille, on recourait le moins possible au pouvoir. Utiliser le Saïdar à sa guise était pour la tricoteuse une source de joie et de fierté, parce qu'elle s'en tirait très bien.
« La bonne nouvelle, »
dit-elle en lissant le devant de sa robe,
« c'est que 3 Daman semblent prêtes à ne plus porter leur collier. J'ai bien dit « semble ».
Elaine plissa le front et échangea un regard surpris avec Nineveh. Sur les 5 Daman que Taïm leur avait livrés, une avait été capturée par les Sehanchaniens sur la pointe de Toman, et l'autre à Tanchico. Les autres venaient du continent Sehanchanien.
Les 2 Sehanchaniennes, Maril et Jilari, continuent à dire qu'elles méritent d'être enchaînées. Pire encore, qu'elles en ont besoin.
Réan fit une grimace qui en disait long.
La liberté les effraie vraiment, semble-t-il. Alivia n'en est plus là. Désormais, elle affirme qu'elle avait seulement peur d'être reprise. À l'en croire, elle déteste tous les Souldames, et elle ne s'en cache pas. Les injurions à la première occasion. Mais j'ai un doute. Elaine, elle porte un Adam depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Elle ne s'en souvient plus. Et voilà 400 ans qu'elle est Daman. En plus de ça, elle est... Eh bien... Alivia est beaucoup plus puissante que Nineveh.
Une précision ajoutée à contre-cœur. Sur l'âge, les tricoteuses n'avaient aucun tabou. Quand il s'agissait d'évoquer la force des unes ou des autres, elles se montraient aussi réticentes que les Aes Sedai.
Pouvons-nous prendre le risque de la libérer? Une naturelle Sehanchanienne qui pourrait détruire le palais?
La famille, comme les sœurs, pensait le plus grand mal des naturels. Sur ce sujet, les Aes Sedai qui connaissaient Nineveh avaient appris à se montrer prudentes. Quand on la prenait à rebrousse-poil, l'ancienne sage-dame avait tendance à exploser très vite. Là, Elle se contenta de dévisager Rehan, comme si elle cherchait la réponse à sa question. Elaine savait ce qu'elle répondrait. Mais ça n'avait rien à voir avec la conquête du trône ni avec Andorre. C'était une affaire d'Aes Sedai, et il revenait à Ninevé de trancher.
« Si vous ne lui rendez pas sa liberté, »
dit Lan depuis son poste,
« autant la renvoyer au Seanchania. »
Elaine, Ninevé, Rehan et Alyse le foudroyèrent du regard, ce qui le laissa de marbre, comme toujours.
« Vous devrez la surveiller de près, mais si vous lui laissez un collier alors qu'elle n'en veut plus, vous ne serez pas meilleur que ses anciens maîtres. »
« Ce n'est pas à toi de le dire, champion !»
lâcha Alyse. Lan soutint son regard sans broncher. Agacée, la tricoteuse leva les yeux au ciel.
« En privé, tu devrais avoir une petite conversation avec lui, Ninevé. »
Encore plus impressionnée que d'habitude par Alyse, sans doute, l'ancienne sage-dame Rosie.
« Sois certaine que je le ferai !»
promit-elle avec une belle ambiguïté. Elle ne regarda pas Lan. Comme si le climat la rattrapait enfin, elle remonta son châle sur ses épaules et s'éclaircit la voix.
« Cela dit, il a raison. Au moins, nous n'avons plus à nous inquiéter au sujet des deux autres. Je m'étonne quand même qu'il leur ait fallu si longtemps pour cesser d'imiter ces crétines de Seanchanian. »
« Là encore, j'ai des doutes. Sur la pointe d'Ottomane, Kara était une sorte de matriarche. Très influente dans son village, en tout cas. » Et une naturelle, bien entendu. On pourrait s'attendre à ce qu'elle haïsse les Seanchanian, et ce n'est pas le cas. Pas pour tous, au moins. Elle apprécie beaucoup la Souldame qui a été capturée avec elle. Et elle craint plus que tout que nous malmenions une des 24 autres. Lémorée a tout juste 19 ans. Cette jeune noble, née avec une cuillère d'argent dans la bouche, a eu la malchance de voir son étincelle se manifester le jour où Tanchico est tombé. « Elle déteste les Seanchaniens, dit-elle, et brûle d'envie de leur faire payer le calvaire de la ville. Mais quand on prononce son prénom de Daman, Larry, elle arrive en courant, sourit aux Souldames, et se laisse traiter comme un animal de compagnie. Je me méfie moins de ces deux femmes que d'Alivia, mais franchement, je les vois mal s'opposer à une Souldame. Si le cas se présentait, elles aideraient leurs anciennes geôlières à fuir, et elles se laisseraient probablement remettre à Nadam. »
Un long silence suivit cette déclaration. Comme si elle était en proie à un conflit intérieur, Ninevé tira sur sa natte. Puis elle la lâcha, croisa les bras et foudroya toute l'assistance du regard. À l'exception de Lan, qu'elle ignora superbement. Enfin, elle se tourna vers Rehan et Alyse.
« Il faut leur retirer la dame. Nous les garderons ici, jusqu'à ce que nous ayons des certitudes. Et même après. » En ce qui concerne les Morées. Parce qu'il faudra en faire une novice. Ces trois femmes ne devront jamais rester sans surveillance. Surtout en présence de Souldames. Mais plus de colliers.
Si Ninevé se tendit, prête à encaisser des objections, un grand sourire approbateur fendit les lèvres d'Elaine. Le recrutement de trois femmes très peu fiables n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Mais comment faire autrement? Rehan eut quelque mal à accepter le verdict. Rayonnante, Alyse fit le tour de la table et tapota l'épaule de Ninevé, qui devint rouge comme une pivoine. Pour garder une contenance, elle se racla la gorge, puis regarda sévèrement la Seanchanienne, piégée dans sa cage de Saïdar. Alors que ses efforts étaient déjà très peu concluants, Lan acheva de lui casser la baraque.
« Taïchar, Meneteren, » souffla-t-il entre ses dents.
Ninevé en resta d'abord bouche bée, puis elle eut un grand sourire. Des larmes aux yeux, elle se tourna vers son époux, qui lui rendit son sourire, le regard presque chaleureux. Elaine se retint de justesse de pousser un petit cri. Par la lumière. Après tout, le lit conjugal n'était peut-être pas si ennuyeux que ça. À cette idée, la fille héritière sentit ses oreilles chauffer. Pour penser à autre chose, elle étudia Marly, toujours ligotée à sa chaise. Regardant droit devant elle, où ondulait le tissage qui l'isolait des sons, la Seanchanienne pleurait à chaudes larmes. Désormais, elle ne pourrait plus prétendre qu'elle ne voyait pas les flux. Quand Elaine le fit remarquer, Rehan secoua la tête.
« Elles pleurent toutes quand on les force à regarder longtemps un tissage. Mais quand il s'est dissipé, elles se persuadent que c'était un vulgaire truc. C'est vital pour elles, comprends-le. Sinon, elles seraient des damanes, pas des souldames. Pour convaincre la maîtresse des chiennes qu'elle est elle-même une chienne, il nous faudra du temps. Au fond, je ne t'ai pas vraiment appris une bonne nouvelle, pas vrai? Eh bien, pour être franche...
Avoir un autre problème sur les bras n'avait rien d'exaltant. À force de s'entasser, les mauvaises nouvelles finissaient par devenir une sorte de bûcher funéraire. Il allait falloir que ça change.